Que d'autres en veulent des petits
moi.
Papiers
ouais. Deux, allez deux. Tiens.
On peut attendre quelqu'un ou pas?
Non, c'est bon. Non, on peut y aller.
On s'est dit peut-être alors, on peut aller vers la bergerie, vers le
pigeonnier. Ou au pigeonnier.
Et ben du coup, il y a un groupe qui va partir là, il y a un groupe qui va partir là. Voilà, on peut à peu près se diviser.
Un point d'écoute là pour les oiseaux et qui a ici.
Juste là.
Là, juste là.
Faut juste qu'on arrête de parler.
Là, le ti-ti-ti-ti-ti-ti. Voilà, après, le truc, c'est d'essayer de les voir.
Il y a les grenouilles en même temps, en plus.
Non, mais il y a déjà plein de trucs, là.
Oui, on est en train de faire plein de choses, c'est bon.
Alors, moi, je fais par le chant, parce qu'en fait, bien 80-90% des oiseaux qu'on entend, on ne les voit pas. Et pour les voir, c'est très, très dur. Donc, le chant, c'est un peu mes yeux, quoi. Mes oreilles sont mes yeux. Donc là, il y a un moineau,
le tchic tchic.
Voilà, c'est des moineaux domestiques. Alors, c'est une espèce très grégaire qui vit en groupe. Alors, c'est très commun, mais ça l'est de moins en moins parce que lui, comme plein d'oiseaux, subissent les méfaits de l'urbanisation. La rénovation énergétique, c'est une catastrophe pour plein d'espèces. Parce que ça détruit tous les micro-habitats qu'il peut y avoir dans les maisons.
Là, il y a des personnes de ma famille de l'Allemagne qui sont à Forcalquier.
Oui.
Et ils ont dit que dans leur ville, au nord de l'Allemagne, il n'y en a presque plus.
Oh.
Ouais. Ils les voient presque plus. Parce que les murs, tout, ils sont nickel, ils sont tip-top, tout est bien fait.
Rénovation énergétique.
Oui, oui.
C'est bien. Mais cela dit, ça n'a pas que des effets positifs. On va peut-être dépenser moins d'énergie, mais on va priver toute une communauté d'êtres vivants de venir profiter des infrastructures. Les martinets,
ouais.
Les hirondelles. Les moineaux, c'est des oiseaux tellement communs, de les voir disparaître, c'est terrible. Le tititi, tititi, ça, qui fait un peu la samba. Voilà. Ça, c'est la mésange charbonnière.
D'accord.
C'est la plus grande des mésanges. Elle a une grosse cravate noire, comme ça, tout le long du ventre. Jaune, noir et blanc. Alors là, on a eu un tout petit peu de fauvette à tête noire. Elle va recommencer sûrement.
Ah oui, d'accord. Ah oui, elle est très, très aiguë.
Elle est punchy.
Ouais. Ouais, ta tête noire.
C'est pratique les chants, mais c'est ardu. Il faut vraiment s'y atteler. Alors, modestement, au début, cibler une ou deux espèces, bien les mettre dans l'oreille. Essayer de voir l'oiseau en même temps pour le voir chanter, voir l'attitude qu'il a dans l'arbre, à quelle hauteur de l'arbre il est ou s'il est au sol. Tout ça, ce sont des indices qui peuvent aider à l'identification. Donc là, on peut essayer de la voir, la maison de charbonnière qui chante. Là.
On va au pigeonnier.
Allez.
Peut-être on fait un arrêt à l'amphi.
Ouais.
Derrière entre l'amphi et le bar.
Ouais.
Parce que c'est bien aussi d'aller à ces endroits où vous circulez souvent, parce que comme ça vous pouvez essayer de
réserver. Oui, et surtout se rendre compte qu'en fait autour de nous, moi c'est ça que sur lequel j'ai envie d'insister, c'est qu'autour de nous il y a énormément de vie, sauf qu'on passe à côté. C'est tout l'enjeu actuel de la relation homme-nature. Mais en fait, même les gens qui vivent dans un milieu rural, souvent ils ne savent pas qu'ils sont parmi plein d'autres êtres vivants. Mmh. Et l'intérêt de connaître les champs et de voir les oiseaux, de les nommer, eh ben, c'est de se rendre compte qu'en fait, on n'est vraiment pas tout seul.
On n'est pas seul.
De se resituer différemment.
Ouais. On se resitue complètement.
C'est vrai, on les entend, mais on les observe pas.
Mais parce qu'on les ignore. En fait. On est tellement anthropocentré, tourné vers nous-mêmes que le. Mais moi, ce que j'aime, c'est en plus, voilà, c'est des oiseaux très communs.
Oui.
Mais en fait, on les connaît pas. Mettre un nom sur les choses, c'est joli. Alors après, moi, il faut m'arrêter. Hein.
Oui,
parce que là, on peut rester là toute la matinée.
Oui, je pense aussi.
Ah ben oui.
Mais je pense qu'on va aller
donc,
vers l'amphi, là.
De présentation ou bien
bah ouais.
Pour commencer quelque part.
On peut faire un tour de présentation de qui est là.
Voilà.
Et ben, à vous la balle.
Non, alors, moi je peux commencer. Alors, moi c'est Vera, j'habite ici. J'ai quand même pas mal travaillé sur les oiseaux pendant mes études. C'était l'écologie et la protection de la nature. Et depuis, je vis à Longomaï, c'est un peu, je le fais plus trop souvent et ça me manque. Et j'aimerais bien mieux comprendre avec qui on vit ici et élargir mon propre savoir. Oui. C'est un peu ça. Et de toute façon, tout ça, ça m'intéresse et je trouve c'est génial qu'on est tellement nombreuses à participer. C'est tout.
Et si tu veux, tu peux passer la parole à quelqu'un de ton choix. Comme ça, au moins.
Alors, je passe à Lourdes.
Ben, voilà, moi, je m'appelle Lourdes. Je viens du nord de l'Espagne, mais ça fait 44 ans que j'habite à Longomaï. J'adore le monde végétal. Et c'est vrai que les oiseaux, ça me manque. Ça me manque. Et donc, je trouve ça super intéressant qu'on puisse faire ça.
Voilà. Ah, moi, je suis Gisèle. Et j'habite ici depuis le début, c'est-à-dire qu'on a planté beaucoup d'arbres. J'ai pas une approche très scientifique, je dois tout de suite le dire, plutôt poétique, aussi avec les oiseaux. Et j'aimerais structurer un petit peu tout ça, quoi.
Ce côté poétique, moi je trouve qu'en ce moment chez nous ça manque, alors... Je crois qu'on en a besoin beaucoup. Et vraiment, merci à Anouk et aux autres qui sont venus parce que c'est un côté qui nous fait du bien.
Quand j'ouvre ma fenêtre de ma chambre, j'ai un gros, gros, gros bruit de plein d'animaux qui me sautent dessus. Et voilà, ce serait intéressant de déterminer un peu qui me parle.
Donc, voilà, donc moi je suis Pierre, je suis forestier à l'ONF, forestier ornithologue. J'ai fait des études de forestier et j'ai eu très vite peur au départ de dépoétiser justement mon rapport à la nature. Et ça a été compliqué à gérer ce dilemme-là. Mais en fait, je me suis rendu compte que rester juste un poète naturaliste, c'était rester un peu spectateur de ce qui se passait dans le monde. Je me suis dit, autant être dans le cœur du réacteur pour essayer d'influencer, par ma modeste action, les pratiques forestières. Voilà.
Moi, du coup, c'est Fanny. J'habite en Ardèche. J'ai fait des études en gestion et protection de la nature. C'est là où j'ai découvert le monde fabuleux des oiseaux. Parce qu'il y a des profs qui nous avaient emmenés sur un col de migration qui n'était pas très loin du lycée. Et cette formation, elle m'a aussi ouverte sur le fait de pouvoir nommer ce qui était autour de moi. Et je suis quelqu'un qui a toujours aimé la nature, etc. Et je me baladais beaucoup, mais à partir de ce moment-là, j'ai pu nommer en fait beaucoup plus de choses. Et là, c'est devenu un... Enfin, mon monde, il a changé, quoi. Pendant ces études, il y a un truc qui me gonflait quand même, c'était qu'on opposait toujours l'homme et la nature. Et il y a quelque chose dans mon cerveau qui... ça matchait pas, quoi. Et à la fin, je me suis dit, mais je crois que je vais faire paysanne, ça serait un peu plus efficace. Et ça me parlait plus, moi, en tant qu'approche sensible, d'avoir un impact direct tous les jours sur un espace qui... dont on a la charge, entre guillemets. Et quelques années plus tard, je suis arrivée à Longomaille. Et j'ai vécu dans la coopérative de Trénas en Ardèche pendant 7 ans. Je m'occupais des vaches là-bas, j'ai aussi fait la traction animale. Et c'est marrant parce qu'il y a un moment donné où j'ai failli oublier ce truc-là qui m'animait. Et parce que j'étais stressée par le fait qu'il fallait toujours trouver de l'herbe pour les vaches, etc. De débroussailler, c'est beaucoup de débroussaillage pour les clôtures. Et la doyenne du groupe qui m'a dit, qui me faisait des vieilles phrases des fois, qui me disait « Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu me fais chier que t'as des broussailleuses. » Et en fait, finalement, je me suis dit « Mais oui, bien sûr, c'est pas pour ça que je suis là. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer vraiment les lieux différemment. Comme elle disait Vera, mais en fait, on est ici, on dépend de cet endroit pour vivre. Et quel impact on a, qui y a, avec qui on vit. Pardon, ça m'émeut beaucoup, mais...
Moi c'est Cécile, du coup j'habite ici depuis un an et demi. Et moi dans ma vie d'avant j'étais géographe et géomaticienne. Donc j'aime bien faire des cartes. C'est une approche du territoire qui est intéressante mais qui est assez statistique, assez froide, assez cérébrale. Et du coup je suis très reconnaissante là de la dynamique qui est lancée cette semaine, parce que j'ai l'impression que, comme ça a déjà été dit, c'est une façon de nous reconnecter à notre environnement. Paradoxalement, on est quelques-uns, quelques-unes à habiter quasiment dans les arbres, quoi, dans les branches, et en fait on n'écoute pas, on ne regarde pas ce qu'il y a autour de nous, on ne sent pas. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à être coupé de ça, quoi. Et là je trouve que c'est une bonne occasion de retrouver un lien sensible à notre environnement. Voilà.
Donc moi c'est Martina, je vis ici depuis 50 ans. Je trouve que c'est important que nous ici, on a la chance d'avoir un terrain de 250 hectares d'un seul tenant et de voir l'évolution du paysage. Et déjà rien que ce qu'on peut observer depuis 50 ans, je trouve que c'est énorme. Et à partir de là, de savoir si on coupe tel arbre ou on fait tel aménagement à tel lieu, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'ensemble en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de faire une semaine comme ça, de connaître justement ce que je connais pas, quel est l'habitat de quel animal, etc. Et de comprendre l'influence qu'on a sur tout ça. Parce qu'ici, on a des grosses machines, on peut construire des routes, on peut construire des maisons, on fait tout nous-mêmes. Donc on peut, on a le choix de faire comme on veut, en fait. Et en prenant en compte tout ça, ce qu'on n'a peut-être pas toujours fait, quoi.
Thank you.
Là, c'est petit.
Le tchac-tchac. La fourvette aussi.
La fourvette aussi. Ouais. Et ça, c'est un
c'est des cris de communication ou... avec la femelle.
Ok. Ouais. Okay. Et comment je peux différencier les cris de communication et d'alarme?
Alors, la fauvette à tête noire, c'est pas du tout pareil.
Ok.
Je suis incapable de te le... Donc, je vais te le faire entendre. Donc, ça, c'est le tchac-tchac.
Mm-hmm. Communication.
Voilà.
Ça, c'est l'alarme.
Voilà. Ça, c'est une alarme. Ouais. C'est énervé. Ça, c'est quand il y a les petits, on s'approche pour les petits, les adultes.
Ah oui,
c'est
marrant. Ah oui, c'est vraiment différent.
Ces petits trucs, ça aussi, c'est des trucs d'excitation. Donc, tu vois, ça peut être vachement varié.
Oui, hein. C'est ça.
Ça, j'ai des trucs, j'ai jamais entendu.
Oui, c'est ça. Enfin, il n'y a pas que les chants à apprendre, mais aussi toutes les différentes
traits
et les cris. Et
méthodiquement, on apprend les chants.
Oui, oui.
Quand tu maîtrises 80 espèces, tu commences à faire...
Mais
ça vient presque simultanément.
Ouais.
Parce que tu les repères, tu vois. Les espèces que tu as appris en premier, le pinson des arbres, tu vas repérer son chant en vol. Ah tiens, c'est un pinson. Ah, il fait ça. Tup, tup, tup. Et le cri, tu vas ça va venir. Mais c'est bien d'être très méthodique et pas vouloir tout bouffer en même temps.
Mais je savais pas que les oiseaux avaient et un chant et un cri. Pas
donc, tous. Mais c'est-à-dire que la fonction n'est pas la même. Ce qu'on appelle chant, qui lui-même a au moins deux fonctions, le marquage territorial et la séduction.
Et le cri alors?
Et le cri, c'est ça, la fonction des cris, c'est des cris de contact. Je suis là, t'es pas là. Alors en vol, c'est une forme de cri. Faire une espèce de cri de dissuasion. Après, les petits eux-mêmes qui ont leur cri pour rappeler les parents pour les nourrir. Voilà, etc. etc.
Et dis-moi, donc, une espèce d'oiseau, entre eux, ils communiquent et ils se comprennent.
Oui.
Mais est-ce que les différentes espèces d'oiseaux, entre eux, ils comprennent ce qu'ils veulent se dire?
Bien sûr.
Ils se comprennent.
C'est une forme de langage, bien sûr, très élaborée. Alors, en plus, nous, il faut savoir en plus que nous, on ne perçoit qu'une fraction du spectre sonore. Oui. Tous les ultrasons, tout ce qui est dans les ultrasons, on ne les a pas. Et ça, les oiseaux, bien sûr, le captent. Et nous, on ne connaît rien, en fait, du chant des oiseaux. On est très, très basique, on dirait. Ça, c'est un chant, ça, c'est un cri. Enfin, ça, c'est plutôt un cri qui veut dire un cri d'alarme. Ça, c'est peut-être un cri de contact. Ça, c'est peut-être un cri pour signaler que les petits appellent à manger, enfin, quand ils quémandent. Mais c'est simpliste. Ils se disent des choses, je pense, beaucoup plus poussées que ça. Pourquoi, nous, on aurait un langage... Enfin, un système de communication vocale élaboré, pas les autres êtres vivants. Les chauves-souris, si on les entend pas, c'est qu'on n'est pas équipé pour. Et les oiseaux émettent des sons qui sont dans les ultrasons. Donc tu vois, si on a cette capacité-là, mais on aurait des champs. C'est comme voir un tableau de loin et de près après. Tu vois toutes les nuances de couleurs. ou regarder une fleur de loin et regarder une fleur de près. Il y a des détails que tu n'observes que si tu t'approches, que tu prends le temps d'écouter correctement. Ou... Ah, là, c'est la citelle.
Ouais. T'as entendu?
Tweet, tweet. C'est un oiseau cavernicole, la citelle. Donc, elle a besoin d'un trou.
D'accord.
Pour faire son nid. Mais elle s'appelle torche-peau parce qu'elle a la particularité de réduire l'orifice du trou d'entrée pour éviter la prédation en torchant, en amenant de la boue et en maçonnant un trou qui est trop gros. Alors elle le fait dans les arbres, elle peut le faire dans les murs. Si vraiment l'anfractuosité est trop grosse, elle s'adapte.
D'accord. Et elle marche sur les troncs.
Et alors, oui, c'est. Il y a qu'elle qui fait ça, savoir descendre la tête en bas.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui. La tête en bas.
Et c'est la citelle que je vois, elle fait. Ah, c'est pas celle-là.
Ça, c'est un motif.
Ouais.
Alors, elle chante pas très longtemps dans l'année, par contre. Hein. Elle est pas très loquace. Une fois qu'elle a les petits, comme beaucoup d'espèces, elle ne chante plus.
Ah oui.
Il faut plus se faire repérer.
Ah oui, d'accord.
Est-ce que vous voulez qu'on continue vers le jardin?
Alors, écoutez, là, vous avez entendu la buse, là?
Oui.
Eh ben, c'était pas une buse.
Ah, c'est le G qui imite.
C'est le G.
Ce G, il est parti. La buse, c'est quoi le G?
Ben, tu écoutes un G et tu as le cri parce qu'elle le fait parfaitement.
Ok.
Qui?
Ok, mais vraiment, c'est parfait. En vrai, ça a l'air ici que le G, c'est un oiseau tellement commun, tellement pas intéressant parce qu'il est là tout le temps, on le voit tout le temps. Mais en vrai, c'est.
C'est un oiseau fabuleux.
Oui, si on s'occupe un peu de cette espèce, on va découvrir tellement de choses.
C'est une grande idée.
Et il est juste là devant notre nez en permanence, on le voit tout le
Moi,
temps.
Moi, je le trouve magnifique.
Oui, il est magnifique en plus. Oui, oui. Et si on a vraiment l'occasion de bien l'étudier parce qu'il est juste là, partout.
C'est la queue qui fait un son très 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 ça.
Mésange bleu.
Ah ouais?
Oui. Ben oui.
Hyper aigu en décroissant comme ça?
Ben, c'est pareil, elle a plusieurs façons de chanter, mais. Voilà, ben c'est souvent comme ça, c'est ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti.
Ah ouais,
c'est suivant ce chant, mais là, attention, les mésanges,
oui,
c'est des chippies. Elles sont super dures parce qu'en plus, elles imitent, elles s'imitent entre elles. C'est extraordinaire. Mais moi, je me suis fait avoir jusqu'à devoir voir l'oiseau pour dire, ah ben non, c'est pas une mésange à longue queue.
D'accord.
C'est une mésange charbonnière.
Qui imite.
Mais à la perfection.
Ouais.
Alors, attends, j'en ai enregistré une l'autre jour. Donc, il faudra que je retrouve, mais elle imitait une autre espèce, mais rien à voir.
Une autre espèce.
Je l'avais devant moi. Alors, oui, le pinson, le cri du pinson.
Ah oui.
Mais à la perfection. Si t'es à 10 mètres que tu la vois pas,
ouais,
tu peux pas dire que c'est une charbonnière.
Et pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça?
Alors, bah, si je savais.
Ah bon?
Des fois, c'est juste pour. Je
blaguer.
Sais pas.
C'est pour semer le trouble.
Ah oui.
Alors, vous entendez. Regardez, tiens, on voit la mésange à tête noire, là, juste sous là. Le.
Ah, trop stylé, ça.
Hop là.
Voilà, elle est un peu.
Elle était excitée.
Ça,
oui.
C'était le cri.
Oui.
Un cri d'alarme.
Oui. Mais tu vois, on doit la déranger parce qu'elle doit chercher à nicher là. Et.
Mais de toute façon, je propose qu'on avance un peu,
oui,
comme ça on n'arrive pas aux pigeonniers.
D'accord.
Et non, je voulais dire qu'on n'arrive pas aux pigeonniers. Et là, il y a aussi des choses un peu plus.
On passe par là?
Ah oui, encore plus. On peut aller sur le chemin là. Par là, par là.
C'est moins pratique.
Il y a deux oiseaux qui sont en même temps, c'est déjà impressionnant. Alors celui qu'on a entendu, hein.
C'est comme un rouge gorge.
Mais c'est pas comme un rouge gorge, c'est un rouge gorge. En principe, chez les petits oiseaux, les petits passereaux, il n'y a que le mâle qui chante. Et là, femelle, rouge gorge, chante aussi.
Mmh.
Et elle défend aussi le territoire, comme le mâle.
Oui, c'est que les mâles qui chantent souvent, à Paris.
Ah, ouais, très souvent. Mm-hmm. Mais les rouges-gorges... Alors, si les femelles sont sur les œufs, parce que là, pour cette espèce-là, il n'y a que les femelles qui couvent, là, elles ne chantent plus. Donc, celui qu'on entend, c'est un mâle.
Mm. Ah. Là, c'est le moment où tout le monde couve?
Non, pas tout le monde. Il y en a qui sont déjà sur les œufs. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup les mésanges.
Mmh.
Parce que ben, ça a bien démarré, on va dire. Après, le froid, là, ça ralentit un peu les ardeurs.
Et donc, chez les fauvettes, la femelle aussi, elle chante.
Non.
Non.
Par contre, le mâle couve aussi.
Quand... Ah, ça couvre le mâle, quoi. Le mâle couve
aussi. Et, Madame Lourdes, il y a plein d'oiseaux dont le mâle s'occupe des petits.
C'est super.
Donc, tous les pics, le mâle et la femelle couvent, ouais, élèvent les petits, les nourrissent. Bon, après, il y en a qui sont plus machos. Hein. Enfin, c'est...
Comme les frères aquatiques. Après, dans les passereaux, oui, t'as vraiment toutes les différentes...
toutes les combinaisons.
Oui, toutes les différentes, ouais, manières de faire. Moi, j'ai entendu, et je ne sais pas quand, qu'il y a quand même des études sur la question s'il n'y a pas plus de femelles qui chantent aussi.
Donc, moi aussi, j'ai vu des trucs. Je ne me suis pas informée. Alors, je parle du rouge-gorge, parce que c'est un peu le plus connu, mais le troglodyte, la femelle troglodyte chante. Ouais. Les rousserolles. Alors là, c'est, ouais, c'est pareil. Et de ce fait, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de, ouais, de dimorphisme sexuel, ouais, marqué.
De toute façon, si j'ai bien compris, il y a quand même plus de femelles qui chantent qu'on croyait avant. C'était un peu la croyance que c'est que les mâles qui chantent pour, ouais, défendre le territoire, pour être, ouais, super beau, pour se présenter et tout. Mais quand même, il y a aussi toute une histoire par rapport aux femelles. Ouais, ouais. Et ça, c'était pas connu avant. Et maintenant, il y a un peu des gens qui se plongent là-dedans.
Alors là.
C'est la maison de Samba, là.
Ouais.
Charbonnière.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça.
C'est un maison. Une. T'as dit que c'est que les mâles qui chantent.
Oui.
Et donc c'est un maison.
Oui, mais. Ah. C'est un maison, oui.
On dit pas. Oui, c'est ça, c'est un maison. Non.
Une maison mâle.
Ah oui. Même si les mâles.
Mais on pourrait dire un maison. Comme ça, au moins, on sait que c'est un mâle.
Ah oui, mais je croyais qu'on n'était pas justement.
Oui, on n'était pas ça.
C'est du gel. Non, mais c'est, si tu veux, voilà, c'est...
La E maison.
Mal.
Non, mais on écoute les oiseaux.
Oui, on n'est pas là pour ça.
On n'est pas là pour critiquer. Ouais. On avance.
Vous la connaissez celle-là?